Pendant la pandémie, on l'a vu, hein? Les gens au Québec lisent de plus en plus et j'ai l'impression qu'au Québec, on a comme de l'amour pour les romans policiers. D'ailleurs, s'il y en a qui ont envie d'un thriller, d'un bon roman policier, j'en ai lu un dans les derniers jours et c'est fait par un gars qui vient de Saint-Félicien, Steve Laflamme, qui est en bout de ligne. Salut Steve!
Allô, ça va bien?
Ça va super bien. Écoute, j'ai envie de parler de ta série de livres concernant Xavier Martel. Tu viens de faire paraître un nouveau roman qui s'appelle « Sans la peau ». Parle-moi de ton personnage, Xavier Martel. Ça vient de où, ce personnage-là? Comment tu l'as imaginé au début?
Bien, quand on écrit un roman policier, c'est une des premières étapes hein, de trouver un personnage central qui est assez fort, qui a des caractéristiques particulières qui vont faire en sorte que les gens vont s'identifier à lui ou à tout le moins, sans nécessairement s'identifier à lui, au moins être intéressé à savoir ce qui lui arrive. Donc, c'est un personnage que j'ai porté quand même assez longtemps parce que le Sans la peau, c'est le troisième roman de la série, le premier qui a été publié il y a 4 ans. Je l'ai porté en moi pendant une dizaine d'années avant de commencer à l'écrire. Donc, il y a eu le temps de se placer pas mal de choses. Et puis, le personnage de Xavier, ben déjà à la base, son nom, c'est un peu... C'est des références qui sont près de moi. Xavier, c'est le prénom de mon fils. Martel, c'était le nom de famille de ma mère qui est décédée il y a 11 ans. Donc, c'est une forme d'hommage que je voulais rendre à ma mère. Et puis, à partir de là, ben je me suis imaginé le genre de personnage qui devait être impliqué dans ce genre d'intrigue-là. Donc, on commence par peut-être le physique un peu, puis certaines propriétés psychologiques. Puis, c'est un peu un travail de on ajoute des plures d'oignons, si on veut. On part de quelque chose de petit, puis on ajoute par-dessus, puis on ajoute, puis on ajoute, puis on ajoute. Et puis, il y a quelque chose qui est arrivé un peu, je me rappelle pas exactement comment ça s'est produit, mais la principale particularité de Xavier Martel, c'est que c'est quelqu'un qui est aux prises avec une condition que j'appelle la synesthésie gustative. C'est-à-dire
oui,
que c'est,
oui, oui.
C'est peut-être ce qui est le plus caractéristique pour lui, c'est que ses émotions passent par le goût. Donc, pour Xavier Martel, il y a des aliments qui sont devenus des interdits dans sa vie parce qu'ils sont associés à des traumatismes, à des émotions qu'il ne veut plus revivre. Par exemple, on sait à quel point beaucoup de policiers carburent au café. Xavier Martel, lui, peut pas prendre de café parce que ça lui rappelle la mort de son meilleur ami pour laquelle il se sent responsable en grande partie. Donc, il y a son existence devient une espèce de champ de mine où il doit éviter des aliments en particulier. Il y a aussi cette particularité-là fait aussi en sorte que même sans consommer ces aliments-là, le goût d'un aliment va se présenter dans sa bouche quand il ressent une émotion particulière. Donc ça donne quelque chose d'assez spécial là, dans le cas de Xavier. Puis éventuellement, étant donné que ça découle d'un traumatisme qu'il a vécu dans son enfance, il va finir par apprendre à se servir de ça dans ses enquêtes, dans certains cas. Par exemple, quand il va arriver sur le lieu d'une scène de crime, ben, il va consommer un aliment qui est associé à aucun affect, aucune émotion en particulier, pour n'avoir qu'à consommer à nouveau cet aliment-là, éventuellement pour que la scène de crime lui revienne en tête. Donc, ça a l'air un peu ésotérique présenté comme ça, mais c'est une propriété qui permet, entre autres, des passages peut-être un peu plus poétiques aussi dans le roman. Puis ce qui est le fun, c'est que rendu au troisième, les lecteurs qui connaissent bien la série savent que, par exemple, la cannelle est associée à la colère ou à la de Xavier. Donc,
ben oui, parce qu'à la lecture, on le comprend bien, parce que là, on l'explique à l'oral, mais quand on lit le roman, on comprend où tu veux en venir justement avec ça, cette caractéristique-là.
Ben oui, puis c'est ça, j'ai juste à dire que un goût de cannelle lui vient en bouche, et puis les lecteurs qui connaissent bien Xavier savent que c'est la colère intense là, qui est en train de ressentir. Donc ça permet une certaine connivence comme ça avec le lecteur.
Dans ton troisième roman, on s'entend, bon, l'action débute du côté de Montréal, on est dans le port de Montréal, ensuite on se dirige vers la rive sud de Québec. Quand tu décides d'écrire des histoires comme celle-là, est-ce que tu aimes ça t'imprégner de ton milieu, c'est-à-dire est-ce que pour écrire, on va aller sur le milieu, regarder un peu les bâtiments, regarder un peu le contexte et bâtir son histoire où vraiment tu y vas dans ton imagination pour bâtir l'intrigue autour, entre autres, de ce troisième roman-là.
Ça a été un des aspects peut-être les plus difficiles dans le troisième, parce que, bon, particulièrement dans le contexte qu'on vit depuis un an, disons que les déplacements sont un peu compliqués. Je dirais que Google Maps, c'est une extraordinaire invention.
Oui, vraiment.
On peut s'en servir beaucoup. Je le dis un peu à la blague, mais c'est vrai, je m'en sers beaucoup pour mes romans. Même des fois, j'ai des passages qui se déroulent dans d'autres pays, puis je peux me servir de ça. disons que dans le premier, les deux premiers romans se déroulaient beaucoup à Québec. Donc, moi, je vis à Québec depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, c'est une ville que je connais bien. Pour le troisième, ça n'a pas été nécessairement évident. Entre autres, le troisième roman s'ouvre sur une scène de poursuite à Montréal, au Vieux-Port. Et puis, heureusement, j'ai la chance d'avoir une éditrice qui connaît vraiment très, très, très bien Montréal et particulièrement ce secteur-là de la ville, qui m'a aiguillé un petit peu parce que c'est question que mon parcours soit logique. Mais disons que j'essaie de m'organiser pour que ce que je dis soit validé. Puis quitte à faire appel à des personnes ressources, là, j'essaie toujours de m'organiser pour pas me compromettre de ce côté-là.
Moi, des fois, ce que je me demande aussi, c'est que c'est beau les lieux, mais des fois, il y a des subterfuges dans le livre où c'est que tu te demandes, coudonc, l'auteur, où il a pris ces idées-là? Parce qu'on s'entend que tes personnages, des fois, veulent pas se faire retracer. Faut qu'ils utilisent des techniques d'enquête, faut qu'ils utilisent des techniques de policier. Mais des fois, tu te dis, mon Dieu, faut y penser, là. On dirait des fois, les auteurs pourraient commettre des vols ou commettre des crimes parce qu'ils ont les idées parfaites. Où tu prends tes idées pour les subterfuges de tes personnages dans le roman?
C'est drôle parce qu'il y a des choses qui nous qui apparaissent au début. Ça part souvent de pas grand-chose. Puis en cours de route, il y a toutes sortes de situations qui se présentent d'elles-mêmes où moi, je sens que par moment, que j'ai pas le choix d'essayer de me mettre à la place de mes personnages puis de me dire si j'étais lui, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Vers quoi est-ce que j'irais? Mais oui, effectivement, les auteurs, on est un peu des voleurs, c'est-à-dire qu'on a les antennes sorties puis on observe ce qu'il y a autour puis je sais pas, ça dépend peut-être. Je pense que ça dépend de la personnalité ou de notre, je dirais pas le tempérament, mais l'attention qu'on porte à ce qu'il y a autour de nous. Tu sais, moi, je vois, quand je suis en période d'écriture, je sais pas, je vois quelque chose autour, puis je me dis, ah, ça, il me semble, ça pourrait être récupéré dans un roman. Pour le deuxième roman, à un moment donné, je suis arrivé dans la rue chez nous, puis j'ai vu une vieille Chevrolet Caprice toute rouillée qui était stationnée sur le bord du chemin. Je me suis dit, ça me semble, ça a sa place dans un roman policier. Puis à partir de là, ben ça apparaît. Puis il y a quelque chose qui se greffe à ça, le type de personnage qui peut la conduire. Puis pour en revenir à la question à propos des subterfuges et tout ça, ben c'est sûr que moi, je suis un auteur de romans policiers, mais je suis pas parachuté là par hasard. Je suis un grand, grand lecteur de romans policiers aussi. Je lis beaucoup, je me documente beaucoup sur le crime organisé. Je me suis documenté beaucoup sur les tueurs en série, évidemment, pour écrire mon premier roman, Le chercheur d'armes. Donc, on en vient à, je dirais pas à certains automatismes, mais on en vient presque à connaître un peu la façon de penser des criminels.
OK, ouais, je comprends. Puis le modus operandi, en fait, là, tu sais, puis de juste retranscrire ça dans un roman, c'est ça qui est intéressant aussi. Où tu voulais amener ton personnage, hein, pour le troisième? Parce que t'as parlé de ton premier, mais là, maintenant, on parle du troisième avec un Russe qui est découvert, le cadavre qu'on découvre dans le port de Montréal. Où t'as voulu amener ton personnage dans le troisième?
Le personnage de Xavier?
Ouais.
En fait, ben c'est ça, c'est que la particularité de mes romans, puis bon, je suis pas le seul à faire ça, bien entendu, mais c'est que chacun des romans de la série comporte une intrigue qui est bouclée à la fin. C'est-à-dire que dans le premier, c'est une histoire, c'est une traque au tueur en série. Dans le deuxième, c'est autre chose. Dans le troisième, c'est l'enfant à la peau, c'est Martel doit fricoter avec la mafia russe de Montréal. Chacune de ces intrigues-là est bouclée à la fin. Par contre, en parallèle, il y a une intrigue qui concerne la vie personnelle du personnage de Xavier Martel qui brasse pas mal, soit dit en passant.
Oui.
Ça commence, c'est mis en place dans le premier roman et ça traverse dans le deuxième et dans le troisième. Donc, en fait, sans trop en dire pour ceux qui voudraient lire la série au complet, disons que dans le premier roman, il arrive quelque chose dans la vie personnelle de Martel qui fait en sorte que sous l'impulsion, il va commettre un geste qui serait répréhensible, c'est le moins qu'on puisse dire. Les suites de ça se développent dans le deuxième roman. Martel va peut-être encore plus loin dans ce qui est répréhensible. Et dans le troisième, ben il est aux prises avec les conséquences de ce qu'il a fait. C'est le mieux que je puisse le raconter pour l'instant, sans trop en dire.
Donc, ça qui est jamais facile, hein?
Non, c'est ça. Puis il y a une espèce de courbe d'évolution pour le personnage. Cette série-là va se terminer dans un quatrième et dernier tome que j'ai pas commencé encore à écrire, mais dans lequel je sais un peu quel univers je veux explorer. Au moment où on se parle, je suis pas certain encore de la manière dont je veux que cette série-là se termine, mais je sais que ça doit se terminer dans le quatrième. Et puis, il y a des choses qui se mettent en place en cours de route. On peut pas tout décider au début. C'est ce que je découvre avec l'écriture romanesque. C'est qu'on peut avoir des bonnes idées au début. Moi, je fais des plans. Je tiens mordicus à avoir des plans. puis je me rencontre d'un roman, je me rencontre d'un roman à un autre qu'un plan, ben c'est pas un contrat. Ça change en cours de route et ça, le roman peut devenir très différent de l'idée qu'on en avait au début.
Puis en terminant, Steve, je sais que tu enseignes justement la littérature policière, puis moi j'ai toujours eu l'impression qu'au Québec, puis même, je sais pas si c'est un peu partout dans le monde, mais les romans policiers, c'est toujours ça qui est l'un des styles d'écriture les plus appréciés par les lecteurs. Est-ce que c'est la même lecture que tu as? Est-ce qu'au Québec, on est vraiment des grands fans de romans policiers? C'est ce qui prédomine?
On est, j'ai pas de statistiques de chiffres de vente comme tel, mais c'est un genre qui a toujours été très populaire, qui l'est encore plus que jamais. On en parlait un peu avant d'être en onde. On entre dans une librairie, on voit, on porte attention au rayon littérature policière, puis on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres. On a de plus en plus accès à ce qui se publie partout dans le monde en plus. Il y a 25 ans, des romans policiers scandinaves, on n'en voyait pas tant que ça dans les librairies. Maintenant, on a accès à ça. Malgré le fait que la littérature est peu présente dans les médias, il y a quand même des personnages forts, Norbert Spener, Michel Belair au journal Le Devoir, qui vont parler de la littérature policière, de plus en plus de blogs là-dessus aussi, des groupes Facebook là-dessus. Et c'est vrai que c'est un genre qui est très, très, très populaire et qui... C'est beaucoup développé au Québec, je dirais, dans les 20-25 dernières années aussi. Il y a des auteurs qui sont devenus très en vue. Il y a des ponts qui ont été établis entre le Québec et la France et la Belgique et la Suisse pour faire connaître la littérature policière québécoise là-bas aussi. Donc, oui, c'est tout à fait vrai. Là, c'est un genre qui est populaire dans tous les sens du terme. Populaire en termes de d'achat, de chiffres de vente, mais populaire aussi en ce sens que c'est un genre qui doit être accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'un doctorat pour comprendre un roman policier. Et en même temps, c'est une forme de défi qui est lancé au lecteur, une enquête policière, et ça nous donne aussi accès à la... Tu sais, le roman noir, qui est une subdivision de la littérature policière, nous donne accès à la pensée des criminels, mais aussi des enquêteurs, de ce qu'ils ont à vivre dans le monde interlope très souvent. Et puis ça a quelque chose de fascinant. On a une espèce de fascination pour les problèmes des autres, on dirait.
Oui, effectivement. En attendant, Steve, j'invite les gens justement à regarder les problèmes de Xavier Martel, à les lire, parce que c'est le troisième tome qui va paraître cette semaine, Sans la peau. Donc, Steve, un gros merci d'avoir pris le temps. Puis je te dirais que jusqu'à maintenant, j'ai une bonne partie de lecture de fait. Puis effectivement, j'ai hâte d'aller lire la suite. Et il y aura un quatrième tome éventuellement, mais ça, il n'y a pas de date. Un gros merci, Steve, d'avoir pris le temps.
Merci beaucoup à toi.